Radio Kapi.
Oh Kapi.
La patience Ngalula Bananga à la présentation.
Au sommaire de cette édition vespérale de vos nouvelles, c'est ce samedi 20 janvier que Félix-Antoine Tshisekedi prête serment au stade de martyrs ici à Kinshasa. À cet effet, l'on constate les réaménagements des infrastructures tout autour de cet édifice, mais beaucoup reste encore à faire à moins de 24 heures de cet événement. Au Nord Kivu, les conseils pour la protection et la promotion de la femme et de l'enfant dénoncent des violations graves des droits humains attribués aux rebelles du M23 dans le territoire de Rutshuru. Ils demandent ainsi au gouvernement congolais de tout mettre en œuvre afin de libérer les entités de Rutshuru. L'invité de ce journal, c'est Augustin Kabouye à Mwanambouté. Il est secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, député national, élu lors des élections du 20 décembre dernier et membre du présidium de l'Union sacrée. Il revient sur la victoire du président Tshisekedi et de l'UDPS, mais aussi les priorités pour ce deuxième mandat du chef de l'État. Bonsoir à tous. Prestation de serment de Félix-Antoine Tshisekedi, c'est déjà ce samedi 20 janvier ici à Kinshasa. La cérémonie se déroulera au stade de martyrs de la Pentecôte en présence de plusieurs personnalités politiques qui feront les déplacements de Kinshasa. Si plusieurs travaux de réaménagement des infrastructures s'effectuent tout autour de cet édifice, beaucoup reste encore à faire à moins de 24 heures de cet événement. Constat de Paul Matendo, voici son reportage.
Sur l'avenue de Zuliri, en partant du centre-ville, Al-Barak, une entreprise privée s'active à nettoyer cette allée qui débouche jusqu'au stade des martyrs de la Pentecôte. À l'entrée de cet édifice, des agents du ministère de l'Environnement et Développement Durable, vêtus de chasubles de couleur verte, entassent des ordures qui sont évacuées par la suite par l'Office des voiries et drainages. Certains parmi eux renouvellent les couleurs des séparateurs et des bordures. Sur avenue Asusa, à quelques mètres du stade des martyrs, les niveaux sont curés. Le boulevard Triomphal, l'un des itinéraires que pourront prendre les officiels, est soigneusement balayé. Par contre, au rond-point des Huileries, des travaux de réaménagement de cet espace qui s'y déroule sont loin de finir ce soir. D'autres voies d'accès vers le stade présentent encore des nids de poules. C'est le cas des avenues Niangwe et Kabinda. Des flaques d'eau rendent la circulation pénible. Déjà ce jeudi 18 janvier, Serge Tshibangu, superviseur de ces travaux, a affirmé que les parcours compris entre l'aéroport international de Njili et les sites qui vont accueillir les visiteurs, parmi lesquels des chefs d'État africains, est réfectionné.
Dans la province du Maniema, la coalition des femmes leaders du Maniema, avec l'accompagnement du Conseil régional des organisations non gouvernementales de développement du Maniema, CRONG, demande la parité au sein du nouveau gouvernement provincial du Maniema. Elles l'ont fait savoir au cours d'un point de presse organisé ce vendredi 19 janvier. Selon cette coalition, depuis 1962, aucun gouvernement sur les 19 qui se sont succédés à l'exécutif provincial du Maniema n'a atteint un seuil des 30% des femmes. On écoute à ce sujet Maître Keren Laini Tenda, membre de cette coalition, au micro de Florence Kizalunga.
La raison de cette conférence, c'était de faire part aux journalistes de notre démarche qui consiste à ce qu'on puisse obtenir la réalité même de la parité dans nos institutions gouvernementales au sein de la province du Maniema. Nous avons eu déjà 19 gouvernements qui se sont succédés et au cours de ces gouvernements, aucun d'eux n'a respecté la parité. Étant donné qu'il y a un gouvernement qui est en vie, nous venons d'avoir les résultats des législatives au niveau national. Nous aurons pour bientôt les résultats des députés provinciaux et on aura aussi à voter les gouverneurs. Alors, lorsqu'on va constituer les gouvernements, notre souci est qu'ici de la constitution du prochain gouvernement, qu'on puisse avoir la parité cette fois-ci. C'est-à-dire que les femmes soient représentées, que les hommes au sein du gouvernement. C'est notre souci. C'est là notre cheval de bataille dont nous menons plusieurs activités pour que nous puissions gagner gain de cause, bien que l'histoire peut être décourageante de notre côté, mais nous militons à ce que cette fois-ci, la donne change.
Je le disais au sommaire, au Nord Kivu, les conseils pour la protection et la promotion de la femme et de l'enfant dénoncent des violations graves des droits humains attribuées aux rebelles du M23 dans le territoire de Rutshuru. Dans un communiqué de presse rendu public mercredi dernier, cette organisation indique que ces abus sont caractérisés par des tueries, viols, enlèvements et tortures. Le CPPFE demande ainsi au gouvernement congolais de tout mettre en œuvre afin de libérer les entités de Rutshuru. Bernardine Ndjambou.
Ces communiqués de presse révèlent, entre autres, l'enlèvement des civils, une pratique devenue monnaie courante dans cette contrée du Nord Kivu. Le dernier cas est celui des 7 civils en date du 15 janvier dernier à Mounanira, dans le groupement Jomba, comme en témoigne ici l'un des responsables de cette organisation.
Ce ne sont pas seulement les 7 civils qui ont été enlevés, mais l'enlèvement à Rutshuru est devenu comme habitude. On enlève, on tue et on viole. On a retrouvé encore 4 corps le 15 janvier. Ces 4 corps s'ajoutent aux 16 corps, donc dans un même mois à Bukombo, on a retrouvé 20 corps. Parmi ces 4 corps qu'on a retrouvés les 15, il y avait les corps d'une mère et son bébé.
Cette même organisation dénonce également des travaux forcés et des tortures infligées aux populations civiles, toujours dans les coupants de Jomba par les M23.
Les terroristes du M23 sont en train de construire les tunnels dans leur base militaire. Les hommes, les jeunes sont soumis aux travaux forcés. On te fait porter une arme qui te dépasse les kilos, tu quittes Gisiza jusqu'à Tchanzu.
Les CPPFE exhortent et encouragent ainsi les gouvernements congolais à tout mettre en œuvre afin de libérer les entités occupées par les M23 dans les territoires de Rutshuru, Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
Restons au Nord Kivu, où certains voyageurs en partance pour le Grand Nord de la province ou l'Ituri n'ont pas d'autre choix que de traverser les Rwanda et l'Ouganda pour atteindre leur destination. Cette situation est due à la persistance de la rupture du trafic routier entre Goma et le Grand Nord, consécutivement à l'occupation par le M23 d'une partie des territoires de Masisi et de Rutshuru. Bernardin Nyangi.
On croit le témoignage d'un agent humanitaire qui a fait en début de cette semaine cette expérience de voyage entre Goma, Rwanda, Ouganda pour déboucher à Kasindi, Beni ou en Ituri. Il y a aussi l'activisme des rebelles ADF entre Beni et Ituri qui force les voyageurs à entreprendre ce long voyage.
Passer par Rutshuru, il y a les M23, de Beni jusqu'à Komanda, il y a les ADF, donc on ne peut pas emprunter la route pour des raisons sécuritaires.
En plus de ces motifs sécuritaires, notre témoin parlait aussi du coût des billets d'avion qui est de plus en plus cher sur ce trajet.
Les billets d'avion actuellement, Bounia, Goma, c'est 241 $, plus les 15 $ de GoPass et la taxe de la province. Donc vous avez déjà 256 $.
Si on échappe à l'insécurité, ce long parcours de plus de 500 km devient aussi pour lui très pénible.
Imaginez-vous, vous commencez le voyage de 16h30. Toute la nuit, vous êtes en train de voyager. On est arrivé ici à Bounia, je pense, à 15h. En traversant les lacs Albert, c'est fatigant.
Rappelons qu'il y a peu, une société locale de transport routier annonçait une initiative de convoi entre Goma et Beni via le Rwanda et l'Ouganda. Mais ce projet peine encore à être lancé, alors qu'entre Goma et le Grand Nord de la province, le trafic reste toujours coupé. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Autre chose, en province du Tanganyika, retour au calme ce vendredi à Kiambi, chef lieu du secteur de Louvois, territoire des Manono, après une vive tension ce jeudi. La société civile de Kiambi annonce que des militaires s'en sont pris aux agents de l'office des routes à la suite d'une question passionnelle. L'incident s'est produit au niveau de la traversée du bac Kiambi au bord de la rivière Louvois. L'administrateur du territoire des Manono confirme l'information. Explication, Paulin Munanga.
D'après le porte-parole de la société civile de Kiambi, un militaire a accusé un agent de l'office des routes de courtiser sa femme. L'abbé Gaspard Maloba indique que le militaire qui a décidé de faire payer cet affront était à la recherche de cet agent de l'office des routes affecté à la traversée du bac. Ne l'ayant pas trouvé, les militaires et ses compagnons d'armes ont semé des troubles au niveau de la traversée du bac, indique le porte-parole de la société civile de Kiambi, abbé Gaspard Maloba.
Il n'y a pas de traversée, tous les agents de l'office des routes affectés à la traversée sont en débandade totale. Il y en a qui ont été arrêtés, fouettés par les militaires. Même les passagers qui étaient à la traversée, il y en a qui ont été chicotés par les militaires. Il y a une moto prise par les militaires, il y a des téléphones volés, l'argent.
Contacté, l'administrateur du territoire de Manono annonce que le bac Kiambi n'est pas toujours opérationnel ce vendredi. Et pour cause, précise Cyprien Kitanga, l'agent de l'office des routes qui est recherché par des militaires, c'est lui le capitaine du bac. L'administrateur du territoire souligne l'organisation d'un conseil local de sécurité à Manono pour tabler sur ce dossier. Soulignons que le commandant des FARDC à Kiambi est injoignable. Kalemi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Rendons-nous à présent dans la province du Olomami où les fortes pluies qui s'abattent ces derniers jours sur les territoires des Bukama ont causé des inondations. Des habitations et autres champs sont envahis par les eaux. Les sinistrés ont abandonné leurs habitations. Jusqu'à présent, ils sont sans assistance. La société civile redoute les cas des maladies car ils sont exposés à des intempéries. D'autres détails avec Kevin Kiangé, un habitant de Bukama, joint par Jean Gandou.
Bon, à Bukama, il y a inondation. Au quartier qui sont Ngobioni, il y a plus de 400 maisons qui sont inondées. Au quartier Lualaba, il y a plus de 200 maisons qui sont aussi inondées. Cette population inondée n'a pas de place où rester. Ils sont en gare, ils dorment dehors avec les enfants, des endroits là qui sont sales, ainsi insécurité. Nous demandons l'assistance, sinon ça ne va pas. Il y a encore deux centres de santé qui sont aussi inondés. Un centre de santé au quartier Lualaba, un centre de santé au quartier Kisangawabioni, plus de 500 champs qui ont été cultivés sont aussi inondés. Ces gens-là demeurent en gare, n'ont pas de maison où habiter, nous demandons toujours de l'assistance, sinon ça ne va pas. Ainsi que cette période, nous courons la période du choléra. À Bukama, il y a choléra. Il y a des cas de choléra, de malaria, bon, ça ne va pas. Qu'il y ait de l'assistance, sinon ça sera trop mal. Cette population est en danger.
Et puis, hausse du prix du carburant et des biens de première nécessité dans le territoire des Manono, province du Tanganyika. D'après l'administrateur du territoire, un litre d'essence qui s'est vendu à 4 000 francs congolais il y a une semaine se négocie actuellement à 15 000. Cyprien Kitanga attribue cette situation à l'effondrement du pont Kiolo sur la route nationale numéro 33. Il précise que cette route permet d'approvisionner Manono en denrées alimentaires à partir de Lubumbashi. Ainsi, il lance un appel aux autorités pour la réhabilitation de ces ponts. Cyprien Kitanga, administrateur du territoire de Manono, est au micro de Paulin Munanga.
Je viens de confirmer l'information sur l'inflation de carburant. Vous savez, comme un litre s'est négocié à 4 000, actuellement, ça se négocie à Manono, au centre, à 15 000. Vous savez, ça a impacté la vie économique de Manono. Il y a un pont qui a été cassé au niveau de Kiolo. Ça fait une semaine qu'il n'y a pas de camion qui passe sur le pont. Et la route est vraiment dans l'état de délabrement au niveau de 25 km vers Manono.
Et actuellement, ce sont des motos qui circulent. Et puis les motos peuvent prendre combien comme marchandise qui va ravitailler Manono, qui est plus grand que le Rwanda, c'est compliqué.
Voilà un peu la situation qui prévaut chez nous ici à Manono. C'est pourquoi nous lançons un SMS au gouvernement national et que provincial de pouvoir venir résoudre la situation tant soit peu pour soulager la population de Manono. Comme vous le savez, c'est la route nationale numéro 33. Et puis Manono est ravitaillé par Lubumbashi en denrées alimentaires. Ce qui est comme aliment de base provient de Lubumbashi du Haut-Katanga.
Dans les Maïndombe, la population manque d'eau potable pendant plusieurs années dans la commune rurale des Nyoki, située au territoire des Koutou. Les habitants font face à plusieurs difficultés pour accéder à l'eau qui, du reste, n'est pas propre à la consommation, a annoncé jeudi 18 janvier 2024 à Radio Capi, la société civile locale. À la base, l'incapacité de la régie de distribution d'eau, régie des eaux, à desservir toute la population en eau, sans oublier les vieillissements et les mauvais états des saturés qui n'inspire plus confiance à la population. Le vice-président de la société civile, Giscard Mbukela, dit craindre des maladies hydriques et plaide auprès des autorités pour la fourniture en eau potable à Nyoki, l'une des grandes cités des Maïndombe. Irène Mbomaluzolo pour des explications.
Dans plusieurs quartiers de la cité de Nyoki, par exemple à Kempeka et à Kingabwa, les habitants consomment l'eau de la rivière Mfimi ou des puits non traités et d'autres encore utilisent l'eau des sources non entretenues. Les femmes et les filles et aussi les revendeurs d'eau éprouvent d'énormes difficultés pour accéder à l'eau potable. Ils doivent parcourir plusieurs kilomètres avec des gros récipients sur la tête ou au dos à la recherche d'eau des sources qui, malheureusement, est impropre à la consommation. C'est ce qu'a déclaré Giscard Mboukela, vice-président de la société civile de la cité de Nyoki.
À Nyoki, il n'y a pas d'eau potable. Ces sources d'eau-là, au moment où nous parlons, il y a des maisons d'habitation au-dessus de ces sources d'eau. Et vous imaginez, il y a des toilettes, quand il pleut comme ça, tout va descendre dans ces sources d'eau-là, la régie des eaux. Il y a un état de délabrement très avancé à tel point que les tuyaux partout sont troués et la population n'a plus confiance à cette eau-là. Et puis, il n'y a pas assez de robinets.
Giscard Mboukela, qui redoute les maladies hydriques, en appelle à la responsabilité des autorités compétentes.
Les autorités doivent plonger à ce problème. Magnoki, pas d'eau. Donc, ça donne accès à beaucoup de maladies à caractère hydrique.
Contacté à ce sujet, les responsables de la régie des eaux sur place se réservaient de tout commentaire. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le Niger annonce l'intensification de sa coopération militaire avec la Russie. Le premier ministre Lamine Zeyine est depuis mardi 16 janvier en tournée diplomatique. Alors que le Niger est en difficulté financière, le chef du gouvernement souhaite aujourd'hui diversifier ses partenaires. Jeudi soir, il était attendu à Téhéran en Iran. Avant cela, il s'est rendu en Turquie et en Serbie. La première étape, c'était mardi. Le chef du gouvernement s'est rendu en Russie, accompagné d'une importante délégation composée notamment des ministres de la Défense, du Commerce ainsi que celui de l'Énergie et des Mines. À l'occasion de ces voyages, les deux pays ont annoncé l'intensification de leur coopération militaire.
L'invité.
Radio Okapi reçoit dans ce journal Augustin Kabuya Mwanambute. Il est secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS, député national élu lors des élections du 20 décembre dernier et membre du présidium de l'Union sacrée. Interrogé par Michel Kifindangoy, notre invité revient sur les élections du 20 décembre dernier, la victoire du président Tshisekedi et de l'UDPS, mais aussi les priorités pour ce deuxième quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi. Suivez.
Monsieur Augustin Kabuya, bonjour.
Bonjour.
Tout de suite, comment avez-vous accueilli les résultats de la présidentielle et de la députation nationale?
Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous avons accueilli cette nouvelle avec beaucoup de satisfaction et beaucoup de joie. Puis c'était ça notre objectif principal. C'était de gagner les élections, comme cela s'était matérialisé et concrétisé à travers la position de la Commission nationale électorale indépendante. On ne pouvait que se réjouir par rapport à cette étape-là.
L'UDPS a pu obtenir 69 députés. Et que comptez-vous faire pour consolider votre victoire?
Quand nous faisons la sommation de ce que nous avons obtenu comme 69, et puis le reste là de nos partis mosaïques, nous sommes dans les 140 quelques. Je dois être correct avec vous pour ne pas passer de fausses informations à nos auditeurs. Nous avons pris notre temps. Dès les premiers jours après l'investiture de son Excellence Félix Tshisekedi, vous êtes sans ignorer que nous avons passé tout notre temps à travers la République à mener la campagne de redynamisation des structures de base du parti. Puisque les élections, c'est que les gens oublient, c'est quoi? Les élections ne se préparent pas à la veille. Les élections, c'est tout un processus qui nécessite vraiment du sérieux. Et nous avons passé tout notre temps à préparer les élections. C'est comme ça que nous aussi, à notre niveau, nous avons préparé la victoire de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo.
Ces résultats ont suscité de mécontentements, notamment de l'opposition qui a demandé carrément l'annulation, mais on constate aussi une montée des protestations au sein même de l'Union sacrée.
C'est un problème de l'honnêteté, c'est un problème de l'éthique, puisque les gens veulent tromper même là où il ne faut pas tromper. Je ne trouve pas ça normal. Quelqu'un peut revendiquer tout en respectant les lois de la République. Mais quand vous vous sortez, vous brûlez les pneus, vous perturbez l'ordre public. Je ne pense pas que ça sera une bonne chose.
L'UDPS l'a aussi fait en 2011.
Mais ici, tu ne m'as pas posé la question que qu'est-ce que l'UDPS avait fait en 2011. Tu m'as posé la question par rapport au contexte actuel. Mais quand je te réponds, tu me dis que l'UDPS l'avait fait aussi. Non, parlons de ce processus. C'est ce qui fait l'actualité aujourd'hui.
Alors, certaines personnalités de l'UDPS, voire de l'Union Sacrée, décrivent la manière dont vous gérez les partis. Et pour l'Union Sacrée, on vous accuse d'avoir été à l'origine des tripatriages des résultats des dernières élections. Comment répondez-vous à tout cela?
Bon, il n'y a que les gens malhonnêtes qui peuvent, excusez-moi pour le terme, il y a des gens malhonnêtes qui peuvent réfléchir de cette manière-là. À ce qui concerne la gestion du parti, je peux vous rassurer ici qu'un parti mal géré ne peut pas occuper la première place. J'ai géré ce parti dans toute la transparence possible. Aujourd'hui, l'UDPS est sortie première formation politique de notre pays avec 69 députés. Mais vous allez trouver les mêmes personnes qui vous disent que non. Kabuya gère mal le parti n'est pas bien géré. Quand on parle de tripatriage, qu'est-ce que je fais? J'avais pris des distances jusqu'au moment où je vous parle. Si vous posez la question responsable de la CENI, je suis des rares politiciens de notre pays qui a gardé sa dignité. Je ne pouvais pas aller là-bas. Je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais.
Sur certains médias, vous avez déclaré que le mandat de député n'est pas incompatible avec vos fonctions de secrétaire général de l'UDPS, ce qui est vrai. Pensez-vous que le fait de cumuler les deux fonctions vous permettra de bien les assumer?
Mais je n'ai pas encore commencé à travailler. Pourquoi ça nécessite un débat?
Alors, quelle sera la contribution de l'UDPS pour permettre au président Fatshi de réussir son second mandat?
Mais l'UDPS a toujours accompagné les chefs de l'État. Nous sommes disposés, quand il va présenter son programme, nous serons toujours derrière pour l'accompagner, pour les soutenir. Voilà un peu notre position.
L'UDPS, c'est un parti de masse. Vous êtes chaque jour avec la population et vous savez de plus près les besoins de la population. À votre avis, que doivent être les priorités du chef de l'État pour son deuxième quinquennat?
La priorité par rapport au second mandat du chef de l'État, d'abord, je tiens à vous préciser que la population a fait sa part des choses. C'est à nous maintenant d'appliquer notre politique de peuple d'abord, de prendre en compte le social de la population. Tout ce qui est devant nous est prioritaire. Il y a les problèmes politiques, sécuritaires, sociaux. Je vous dis, tout est prioritaire pour nous. Puis c'est le dernier mandat.
Monsieur Augustin Kabuya, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de cette session d'actualité, madame, messieurs. Mise en onde pour vous par Jean-Claude Ntiala, supervision et coordination, Noëlla Luzitu et Jacques-Yves Molima. Patience Ngalula, c'est moi, j'étais à la présentation. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée à toutes et à tous.